bienvenue sur Estasia.fr pour notre 30e podcast entièrement consacré au cinéma coréen à l'occasion du Festival du film coréen à Paris qui s'est tenu du 25 octobre au 1er novembre dernier et qui va nous occuper pour toute la dernière et très longue partie de cette émission. Et la sortie de Mademoiselle le 1er novembre qui va nous permettre de mettre un terme au débat qui nous agitait depuis la découverte du film à Cannes en mai dernier. Mais j'aimerais commencer par une première partie plus générale sur l'état du cinéma coréen et notre perception de celui-ci. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Célia. Bonjour Célia.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux présenter ton activité au sein de Cinéma Coréen à nos auditeurs ?
Alors, je m'occupe de cinémacoréen.fr, qui est en charge de la promotion du cinéma coréen en sortie en salle et en festival en France ou pays limitrophes, c'est-à-dire que je peux m'y rendre, donc je peux traiter de cette actualité. Et c'est surtout, je suis l'interface pour des réalisateurs ou des distributeurs ou des producteurs. Donc j'ai de temps en temps des réalisateurs qui me demandent de les aider à trouver des financements parce qu'il y a des partenariats industriels et économiques entre la France et la Corée. Par exemple, j'ai des distributeurs qui achètent des films coréens dans des festivals et qui ont besoin d'un coup de main pour une sortie nationale en France. Et puis après, je vais avoir aussi des producteurs qui vont me demander des conseils. Donc j'ai ma petite casquette de consultante à ce moment-là. Et ça fait une grosse partie de mon activité.
Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être là donc, pour ce podcast spécial Corée.
Merci de m'avoir invité.
Alors on va faire un premier tour de table. On est très nombreux autour de cette table dans laquelle je vais vous poser à tous une question qu'on s'était posée l'année dernière. Qui est votre appréciation, votre sentiment sur l'état du cinéma coréen, donc en cette fin d'année 2016. Célia, comme tu avais la parole, je vais commencer par te poser cette question.
D'accord. Alors, pour moi, elle est très positive parce que, bien qu'il y ait beaucoup de blockbusters qui atteignent plus de 10 millions en entrée domestique en Corée, il y a de toute façon des films indépendants qui arrive à émerger et des très très grosses surprises, contrairement à l'année 2015 qui était un petit peu terne. Là, on trouve vraiment des nouveaux visages, des nouvelles histoires sur le grand écran. Donc moi, pour 2016, je suis plutôt très positive et je pense qu'il y a un regain et c'est ce qui fait qu'on a eu, en France notamment, pas mal de sorties cet été en salle.
Nous savons, on a eu sur l'été entre Dernier Train pour Busan, The Strangers, qui étaient les deux locomotives. En plus, on a eu deux petites sorties assez excellentes, Blackstone et Man on a Hill. Donc, ça fait quand même quatre films qui sont sortis en l'espace de 2 mois, auxquels on rajoutera Mademoiselle, ce qui est pratiquement du jamais vu.
Du jamais vu pour une année, plus une petite rétrospective, donc Sang-soo, de 5 films qui sont passés sur plusieurs semaines à Paris. Donc, c'était effectivement très conséquent, très chargé.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
C'est aussi ton premier podcast, bienvenue.
Oui.
Donc tu écrivais sur Inculte, tu écris maintenant sur Il était une fois le cinéma et sur Estasia, n'est-ce pas ?
Et sur DVD classique.
Et sur DVD classique.
Mais pas trop sur Il était une fois le cinéma en fait.
Ah, je croyais que tu avais fait quelques critiques.
Mais on peut m'en attribuer ici.
Très bien, je vais te poser aussi la question que j'ai posée à Célia. Quelle est ton appréciation sur l'état du cinéma coréen aujourd'hui ? Donc, en cette fin d'année 2016.
Alors, en fait, je vais dire un truc bête, mais c'est que j'en ai l'image des films qu'on a accessibles en France. Donc, c'est une image plutôt de qualité, puisque c'est vrai que cette année, on a fait 4 films d'un bon niveau, pas forcément excellents. J'ai plus des réserves sur Man on High Heels et Blackstone. Mais après, c'est vrai que l'avantage...
Qui avait des partenariats avec Estasia.
Voilà, merci.
Mais non, voilà, c'est vrai que là, on a eu un beau panorama entre fantastique, film d'auteur, auteur et un peu social et d'action. Mais en général, pour avoir un regard un peu large sur le cinéma coréen, le plus simple, c'est le FFCP. Mais donc, non, chaque année, en général, je suis quand même plutôt agréablement surpris, mais... Ça représente quoi, 10% de la production, même pas. Donc je pourrais pas me faire une idée. Enfin, c'est une idée qui me semble faussée.
Ok, bon on aura l'occasion d'en reparler, et notamment des films du FFCP. Bonjour Elvire.
Bonsoir, oui.
Comment vas-tu ?
Bien.
Alors, le cinéma coréen.
J'ai l'impression que déjà tout a été dit. Enfin, je pense qu'on partage à peu près tous le même sentiment en fait.
4 minutes 50, le podcast est fini. Ouais. C'est parfait.
Non, c'est parfait. Non, mais voilà, on voit des blockbusters, gros films, quelques films indépendants qui sont plutôt de bonne facture. Le FFCP permet justement de découvrir aussi d'autres films qui ne sortiront en France. Peut-être pas en salle, en tout cas.
On va parler de la distribution juste après.
Non, moi je trouve cette année meilleure que les années précédentes. Après, j'ai toujours une petite réserve sur le fait que les films sont tous, sont quasiment tous très bien réalisés, très bien montés. Enfin, techniquement, ils sont super, mais il manque parfois un petit peu d'originalité en fait. Pour moi, on est plus là face à peut-être plus dans le pays que chez nous, en tout cas en distribution, on est plus dans la quantité que dans la qualité par moment. En fait.
Bah, c'est vrai que l'année dernière, notre podcast 27, qui était le dernier consacré à la Corée, on avait un peu peur d'une uniformisation du paysage cinématographique coréen. On était assez d'accord sur le fait qu'il y avait de très bons blockbusters, un peu moins sur le cinéma indépendant.
Je trouve que le cinéma indépendant,
meilleurs films indépendants.
Je trouve qu'on a vu de meilleurs films indépendants.
Ça c'est vrai.
C'est pas encore gagné, mais par contre on n'a pas vu l'entre-deux, on va dire. On a vu vraiment des petits films, très gros blockbusters, et on a l'impression qu'entre les deux, c'est un monde qui n'existe pas.
Est-ce que c'est pas un peu comme le cinéma américain au final, où il y a les gros studios et puis les.
Je pense que ça fonctionne.
C'est le cinéma du milieu.
Il faut bien savoir aussi.
Alors, Martin, comme ça tu vas pouvoir donner ton appréciation.
Alors, déjà, dans le premier temps, je trouve qu'en effet, l'année 2016 est un bon cru de ce qu'on a vu. Hein, et les interviews que j'ai pu faire cette année au FCP, les intervenants, tous étaient d'accord pour dire qu'en effet 2016 a une espèce d'aura, en tout cas voilà. Maintenant le constat est toujours un peu le même, c'est-à-dire que depuis le début des années 2010, la majorité de la production est vraiment gangrénée par les trois grands studios, Lotte, CJ et Showbox. En gros, les boîtes indépendantes, ceux qui produisent des films indépendants, ce sont eux aussi. Ils ont, là, comme peut l'avoir la Fox avec et Focus, Force Circle et tout ça, ils ont aussi leur département qui finance et produisent, en fait, une partie, une frange du cinéma indépendant. Donc, ils ont tendance, les studios, à produire ce qui marche. Donc il y a toujours un goût du public pour le thriller, parce qu'ils le font très bien. On a vu comme cette année que ça s'est soufflé un peu, Asura, on en reparlera, c'est comme un gros navet.
Ça commence.
Voilà. Et puis, il y avait toujours les tas de comédies, on ne les voit pas. Si vous allez sur un cinéma et vous regardez un peu ce qui est produit, il y a quand même beaucoup de comédies. C'est difficile de regarder les bandes annonces en entier.
Non, ne parlons pas des films.
Voilà, et puis il y a aussi un truc qu'on sait peu, mais il y a une grosse production de films érotiques.
Si on sait.
Non, en tout cas, peut-être pas forcément les gens, mais en tout cas, il y a une grosse production.
Elvire, tu voulais rebondir ?
Je voulais juste dire un truc, en fait. Peut-être que cette année aussi a été exceptionnelle pour nous, parce qu'on a retrouvé quand même trois grand réalisateur qu'on n'avait pas vu depuis quelques années, Park Chan-wook, Nam-Joon Jin, Kim Ji-woon au FFCP. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un sentiment quand même de. C'est des réalisateurs qu'on attendait quand même.
Oui, c'est ceux-là qu'on attendait, mais les autres qui étaient derrière étaient très bons aussi. Quoi. Ils ont fait vraiment le job et on pensait qu'ils allaient ramasser les miettes et du tout.
Oui, enfin, c'est le retour des pointures aussi quand même.
Oui, voilà. Mais l'autre génération, enfin ceux qui sont arrivés après, ils font des choses tout aussi intéressantes. Donc voilà.
Nicolas,
bonjour. Bonjour. J'ai pas grand-chose à rajouter non plus. Moi, je trouve que le FFCP, moi, je trouve aussi que c'est la meilleure édition du FFCP cette année, donc ça doit être assez représentatif de la cinémographie coréenne, même si on a, comme dit Anthony, que 10 ou 15% de ce qui se produit chaque année.
Oui, il y a du meilleur aussi. Parce que
mais du meilleur, il y a une sélection.
Il y a beaucoup de films qui sont
mais, en amont. Mais je trouve vraiment, alors certes, c'est pas, il n'y a pas eu de films très originaux, mais je trouve que on a vraiment eu tous les genres, pas mal de thèmes qui ont été abordés de manière différente. Et je trouve que il y a très peu de films que je n'ai pas aimé cette année, quoi. C'est à chaque fois, à part un seul peut-être, c'est à chaque fois moyen, pas mal, à des films qui m'ont vraiment bouleversé, comme je n'en ai pas vu dans le cinéma français par exemple ou ailleurs. Donc voilà, moi je trouve que c'est une superbe édition du FFCP, je trouve qu'il s'améliore d'année en année.
On a eu une bonne année de cinéma français.
C'est vrai. Bon,
c'est une habitude, un lieu commun. On a l'habitude de dire, mais c'est pas forcément vrai pour le cinéma français cette année.
Voilà. C'est vrai, même s'il n'y a pas de. Moi, j'ai aucun mémoire de chef-d'œuvre ultime.
Renaud Dumont.
Puis il y a le Véroven, mais c'est bon, c'est pas vraiment un réalisateur français, quoi, donc, même si c'est un film français.
Alors, on va pas commencer Je vais passer la parole à Lila. Bonjour Lila.
Bonjour, moi je n'ai pas grand chose à ajouter non plus, je rejoins assez Nicolas là-dessus. Pour moi, cette édition du FFCP était plutôt convaincante. Comparé à l'an dernier où j'avais pu trouver beaucoup de films, je me demandais s'ils n'étaient pas un peu là par défaut parce qu'on ne savait pas trop quoi mettre. Là, tous les films avaient vraiment quelque chose d'intéressant, que j'ai accroché ou pas. Je trouvais que tous avaient une proposition pas forcément originale, voilà, ils avaient tous leur place, et je suis plutôt optimiste. Après, ça manquait peut-être de quelque chose de vraiment transcendant, quoique on a quand même eu des films qui vraiment m'ont marqué, mais ça laisse augurer du meilleur pour la suite.
Il faut préciser aussi qu'au FFCP, contrairement à d'autres festivals comme Kinotaio sur le cinéma japonais qui n'a que 9 films, il me semble une vingtaine de films dans la section paysage. 13 films dans la section paysage, mais au total une vingtaine de films qui sont montrés avec les avant-premières, les autres sections. Donc c'est quand même beaucoup de films pour un festival qui se concentre sur une cinématographie.
Mais en fait, juste pour revenir à ce qu'a dit Lila, en fait, c'est ça en fait. Chaque film, je trouve, avait quelque chose à proposer que les autres films ne proposaient pas. Il y avait à chaque fois, même que ce soit au niveau de la mise en scène, même du récit, des thèmes abordés, il y avait toujours quelque chose qui le sortait du lot par rapport aux autres films de la compétition, enfin du paysage, de la section paysage, tout comme ça, quoi. C'était vraiment assez intéressant à ce niveau-là, je trouve, très varié.
Bonsoir Kefren.
Bonsoir. Bonsoir, oui. Pour moi, c'est une bonne année. Mais en fait, c'est une bonne année dans le cinéma mondial, pas que le cinéma coréen, donc... Le cinéma coréen est aussi représentatif de cette tendance. Mais tout à l'heure, on a parlé, Elvire, je crois, a parlé d'originalité et on a fait remarquer que le cinéma indépendant était. Martin Fora, que le cinéma indépendant était financé par les majors. Et justement, ça m'a fait penser à l'article de Vincent Maloza dans Les Cahiers qui dit que justement, le fait que les majors financent le cinéma indépendant tend à une uniformisation du cinéma indépendant coréen. Et qui justement pourrait faire qu'il n'y ait plus d'originalité, comme dit Elvire. Mais pour ma part, j'ai eu mon lot de transcendance pour le cinéma coréen cette année.
Wow. C'est marrant parce que c'était une thématique dont on avait parlé déjà l'année dernière à propos de Social Phobia, il me semble, qui était un premier film d'un jeune réalisateur qui sortait d'une école de cinéma qui avait tout de suite été pris, alors je ne sais plus quelle est la production du film, et du coup il avait été un peu empêché d'aller plus loin dans la noirceur ou dans la représentation pour entrer dans des codes que lui imposait les majors du cinéma. Bonsoir Justin.
Bonsoir. Donc moi aussi pas grand chose à rajouter sauf peut-être par rapport à
ce qu'on dit depuis le début.
À l'année dernière où on doutait un peu du renouvellement des générations. On disait que ça avait un peu de mal à dépasser la génération, enfin de retrouver des nouveaux noms après la génération des Park Chan-wook et autres. Et en fait, là, honnêtement, il y a des noms qu'on a envie de revoir, il y a des gens qu'on a envie de revoir après le festival, la réalisatrice de World of... Déjà, on a des réalisatrices qu'on n'aime pas forcément...
Un petit peu, quand même, on a eu Shin Soo-ha...
Oui, quand même, Gina, il y a 2 ans...
Ouais, non, mais
Shin Soo-ha, ça fait 3 ans qu'elle est là, ça.
Oui, non, mais...
Et donc, il y a vraiment un renouvellement. Il y a vraiment des noms qu'on a envie de suivre, de revoir ensuite. Moi, je pense à la réalisatrice de World of Us, même The Two Beneath, même si je n'ai pas accroché totalement le film, mais c'est quand même...
On va en reparler tout à l'heure, mais t'es le seul à avoir quelques bémols sur The Two Beneath.
Non, mais à sa décharge, il n'a pas pu voir beaucoup de films. C'est peut-être il a été victime du succès du FFCP.
Mais enfin, j'ai dit, j'ai trouvé ça correct, j'ai trouvé ça mauvais. Mais bon, il y a quand même un renouvellement de génération. On sent qu'il y a du potentiel pour les années à venir. Et d'autant que les grands anciens aussi sont en forme. On va en reparler après.
Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Je crois que tu as vu pratiquement tous les films du FFCP. Est-ce que ça t'a donné une bonne idée de ce que peut être le cinéma coréen aujourd'hui?
Comme il a déjà été dit, l'édition était vraiment bonne cette année. Donc la plupart des films étaient vraiment très intéressants et assez variés finalement. Même s'il y avait quand même 2-3 blockbusters qui évidemment monopolisaient un petit peu le centre d'intérêt des spectateurs. Mais rien de nouveau et rien qui m'a vraiment marqué.
Je sais, il manquait un Kim Ki-duk.
Ouais, peut-être.
Ou un Hong
Sang-soo.
Alors, après, par exemple, ce sont des cinéastes qu'on connaît aussi, donc c'est vrai que.
Mais c'est vrai que même au niveau des blockbusters, même si ça peut paraître très convenu, évidemment, c'est pas les mêmes blockbusters qu'aux États-Unis. Il y a toujours beaucoup plus d'humour, un petit peu de transgression, même si ça reste quand même très normatif. Mais un des films quand même qui m'a marqué par son originalité, c'est Still Flower, qui était vraiment très très original et qui propose quelque chose d'assez intéressant.
Un peu chiant quand même.
Mais non.
Je ne peux qu'applaudir.
Qui s'inspirait un petit peu de ce que faisait.
On va pas tout de suite dans le débat sur le film.
Qui s'inspirait un petit peu de ce que faisait Adachi et Wakamatsu à la fin des années 60 avec des théories du paysage. Ouais, ouais. Et là, mêlé à un milieu social de Busan, etc. Et le film comporte des scènes très très fortes. Mmh. Même si le film dans son ensemble, j'ai bien aimé, mais je trouve que ça aurait pu être poussé encore plus loin le truc. C'était vraiment une bonne surprise. Et donc, j'espère revoir notamment ce réalisateur dans les années à venir.
Tu avais vu son film précédent ?
Non, c'était une première.
Anthony ?
Oui, non, pour rebondir par rapport à Still Flower, et je pense que c'est pratiquement la seule année, en tout cas la première année, où on peut dire ça sur l'ensemble des films, c'est que tous avaient une dimension sociale qui était assez prononcée, même les blockbusters. Mmh. Alors après, est-ce que c'est un choix par rapport aux programmateurs? C'est sans doute possible, parce que je pense pas que l'ensemble des comédies, des mélodrames ou des films romantiques est là, mais cette année, oui, même pour des gros blockbusters, des films d'animation, des documentaires, des comédies, tous avaient une dimension sociale, mais vraiment très très marquée, assez caustique, assez satirique, assez désespéré. Moi, ça m'a surpris de ce côté-là.
Alors,
j'essaie de réfléchir par rapport aux années précédentes. C'était peut-être un peu plus marqué cette année, mais ça a toujours été quand même mis en avant. En fait,
les années d'avant, certains blockbusters, je pense à Roaring Current, ça avait zéro dimension politique.
Il y avait une dimension nationaliste super forte, comme le dernier Kim Jong-un, en fait.
Mais
pas contestataire.
Kim Ji-hoon n'est pas contestataire non plus. Assassination n'est pas contestataire.
Oui, mais le Kim Ji-hoon, j'avoue que je l'ai déjà oublié.
Mais Assassination l'année dernière n'était pas contestataire non plus, en fait. Mais c'était purement nationaliste.
Alors, on va mettre entre parenthèses les films du FFCT pendant cette partie. On va y revenir très longuement sur la dernière partie. Et du coup, on va essayer d'élargir un peu le débat et partir un peu en Corée, puisque Célia, tu étais cette année au Festival international du film de Busan.
Tout à fait.
Donc, il s'est tenu
au 15 octobre. Alors, malheureusement, comme j'avais beaucoup de choses à faire en France, je n'ai pu participer qu'à la seconde semaine, mais c'était déjà pas mal. Donc, pour rappeler un petit peu ce qu'est le BIF, donc le Busan International Film Festival, qui depuis 6 ans utilise la lettre B, parce qu'avant c'était le PIF, on est en fait à sa 21e édition, et c'est une édition vraiment très particulière sous plusieurs aspects. Déjà, on a eu en fait le retour de M. Kim Dong-ho, qui est le cofondateur du BIF, à la présidence, puisque depuis 2 ans, il y a en fait des gros remous politiques à la tête du festival. Malheureusement, M. Lee Myung-kwan, en 2014, a subi les foudres du maire de Busan, qui s'appelle So Byung-so, parce qu'il avait programmé, en fait, dans la section Wide Angle, le documentaire de Lee Sang-ho qui s'appelle The Truth Shall Not Sink with Seoul, qui fait un rappel sur les conditions de sauvetage du naufrage du ferry Séoul le 16 avril 2014. Et pour cela, il a failli être limogé, renvoyé de son poste de président du BIF. Il n'a pas abdiqué, il a tenu tête. Donc ils ont dû attendre la fin de son mandat en février pour ne pas pouvoir le renouveler. Et ça a créé en fait une vague assez importante de contestation et surtout de sales histoires autour du festival, puisque dès lors où M. Lee Moon-kwan n'était plus à la présidence, on lui a fabriqué des fausses preuves, comme quoi avec son programmateur, il aurait détourné de l'argent pour aller en prison. Donc là, il est en procès. Et ça a été quelque chose d'extrêmement troublant pour ce festival, parce que, à titre de comparaison, on traite le BIF comme le Cannes asiatique. C'est l'un des plus importants festivals du circuit du monde entier. Et non seulement par les chiffres, mais aussi par la qualité de la programmation, c'est vraiment un festival incontournable. Donc quand on met sous le feu des projecteurs, des sales affaires de détournement et de pression, parce qu'un documentaire remet en cause les autorités gouvernementales, quand on est dans un pays comme la Corée du Sud, qui est quand même tenu d'une certaine main de fer, c'est très compliqué de faire vivre la culture. On pourrait croire que, justement, l'image du cinéma coréen qu'on est, c'est une image très entertainment, et que c'est certes une grosse industrie, mais en fait, la culture, faut pas qu'elle fasse de vagues. Si on utilise la culture comme un levier d'affranchissement, d'émancipation, d'expression, et que vous êtes en confrontation avec les autorités actuelles, ça ne passe pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce petit changement à la tête de la présidence du BIF. Donc, depuis 2 ans, il y a aussi l'actrice Kang Soo-yoon, qui est très très connue et très très populaire, qui a été parachutée pour, on va dire, calmer un petit peu l'animosité. Et on a bien senti cette année que y a eu un impact très néfaste de toutes ces histoires. Alors ça se traduit que, par exemple, quand on était au festival, on prenait la navette qui faisait tout le tour pour récupérer tous les festivaliers, pour les emmener sur les lieux de projection, elle était presque vide, par exemple.
Donc ça a une influence concrète et
extrêmement concrète
sur la fréquentation aussi du festival. Ouais.
Alors après, il y a plein d'autres facteurs, donc je vais revenir dessus pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas aussi que politique, mais on comprend que dès lors où vous avez le maire de Busan qui est membre du comité exécutif du festival et qu'il dit moi je suis pas d'accord, je veux avoir la main mise sur la programmation, c'est très compliqué. C'est pour ça que je loue les festivals qui ont une direction artistique totalement autonome. Et je comprends à quel point ça peut être compliqué pour les programmateurs. Je sais que j'avais rencontré M. Kim Dong-ho il y a 2 ans, qui était venu en invité du FFCP. Et je lui avais justement posé la question, vous qui avez été directeur et président du festival, avez-vous subi les mêmes pressions que M. Lee Yong-kwan? Et il m'avait répondu, c'est pas pour rien que j'ai arrêté et que j'ai filé la main à M. Lee parce que c'est fatigant. Il me dit, mais les pressions ne sont pas forcément que de Corée. Elles sont d'autres diplomates d'autres pays parce qu'on va programmer des films de réalisateurs dissidents et on nous met une pression. Il dit, moi j'ai plus de 80 ans. Je veux faire autre chose, je militerai toujours pour le cinéma parce que c'est comme ça que je défends la culture, en donnant des cours, en aidant des festivals à être créés, etc. Mais j'ai plus le temps et l'énergie pour le BIF. Et là, coup de théâtre, cette année, il est co-président du BIF. Donc moi, ça m'a fait plaisir de le revoir de toute façon. Mais ce bonhomme qui est quand même le grand-père du festival du cinéma coréen dans le paysage coréen, se devait d'être là parce qu'il a pu être autant le bouclier que le glaive de ce festival. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, pour revenir sur ces petits remous du BIF, quand M. Lee a été congédié après son non-renouvellement de mandat, il y a eu toute une vague de contestation, autant de la part des autorités gouvernementales que des groupes de réalisateurs qui se sont unis pour défendre le festival. Alors d'un côté, il y a eu la menace des autorités gouvernementales qui ont dit on va baisser de 70% les subventions. C'est un très très gros festival, donc qui dit très gros festival dit très gros budget, et que s'il n'y a pas de subvention, eh ben, les mécènes et les sponsors, ça ne suffit pas à faire tourner, c'est-à-dire à inviter, à héberger, à louer les copies, à rémunérer les salles, donc c'était très problématique. En même temps, il y a eu un comité d'urgence qui a été créé avec à sa tête Monsieur Lee Eun, que certains connaissent parce que c'est le producteur de très très grands films qui nous sont arrivés comme JSA par exemple. Et donc il est à la tête de la Korean Film Producer Association, la KFPA. Et donc il a essayé de défendre la liberté d'expression en disant que c'était le socle de tout artiste et que sans elle, il ne peut pas y avoir de production de films en Corée. En parallèle de la KFPA, il y a eu 74 autres groupes à vouloir défendre vivement le BIF. Donc c'était surtout des groupes de réalisateurs, d'autres festivals, des commissions de films et aussi la CAFA, la Korea Academy Film of Arts. Donc beaucoup de soutien institutionnel. Et en avril, Recoup de théâtre, en fait, il y a une coalition de 9 groupes importants de l'industrie du cinéma coréen qui s'appelle la Korean Film Group Emergency Committee, qui a déclaré un boycott. Alors là, ça a été vraiment une onde de choc. On s'est dit, eh ben, ce n'est pas en fait les autorités gouvernementales qui vont nous dire comment ça va se passer en baissant la subvention, c'est nous qui allons dire, eh ben, nous ne venons pas. Nous allons boycotter le festival, on va aller ailleurs, on va aller à d'autres festivals qui sont à côté. Donc il y a eu une période de flottement durant le début 2016 qui a été très perturbante, parce qu'on se demandait justement si la 21e édition allait être maintenue. Et puis Recoup de théâtre, au final, le boycott n'était pas l'arme qu'auraient voulu utiliser définitivement les personnes qui supportaient, qui soutenaient plutôt le BIF. Ils se sont dit, eh ben on va quand même venir. Donc, maximum de personnes viendront. Alors, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont dit que le festival, ayant eu des problèmes depuis 2 ans, il y aurait des grosses baisses de budget. Grosso modo, en fait, c'est pas si vrai que ça. Il y a eu une baisse effective d'à peu près 10% du budget. Donc, cette année, ils ont tourné autour de 9,9 millions de dollars. Donc, c'est environ 11 milliards de won. Donc, au final, c'est pas tant que ça comme baisse de budget par rapport à la menace des 70% de subventions. Et ça s'est traduit par, en fait, juste des baisses de sponsors et de mécènes parce qu'ils n'ont pas voulu, certaines marques, être associées au scandale. Donc, certaines se sont retirées. Et bizarrement, en fait, à contrario, il y a même eu une hausse du budget de la part des autorités gouvernementales, même de 12%. Ils ont participé cette année à peu près 800 000 dollars de participation versus 710 000 en 2015. Et le budget que la mairie de Poussan a aussi alloué est totalement le même, en fait 7,3 millions de dollars. Donc au final, c'est pas un point de vue budgétaire. Les autres facteurs qui ont contribué au fait qu'il y a eu peu de fréquentation par rapport à l'année dernière, c'est tout simplement nous avons eu un typhon et un tremblement de terre à la première semaine. Donc ça ne motive pas forcément les gens à sortir. Donc je vous rappelle, Busan est la deuxième ville la plus importante de Corée du Sud. C'est le port le plus important et c'est en front de mer. Et comme la cérémonie d'ouverture et de clôture se font dans un théâtre ouvert, s'il y a un typhon qui passe par là, c'est pas très évident de maintenir des projections. En revanche, ce qui a été agréable par rapport à cette édition, c'est que comme il y a beaucoup de personnes notables à être venues pour soutenir le festival, donc il y a eu Hu Xiaoxian, il y a Hirosaku Koreeda, Lee Chang-dong, il y a eu Rutger Wolfson du Festival de Rotterdam, Dieter Koslik de la Berlinale, il y a eu Jean-Marc et Martine Terwan du Fiquet de Zoud, plein de personnes sont venues manifester leur soutien, ainsi que d'autres réalisateurs et des acteurs. Et une soirée fut organisée justement pour montrer l'amour, le soutien de ce festival. Donc c'était vraiment une soirée très 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 chaleureuse. Donc ils étaient là pour soutenir la liberté d'expression et surtout de diffusion des œuvres, puisque c'est pas le tout de dire qu'on veut s'exprimer, il faut que les œuvres soient montrées en salle ou en festival, et qu'aucun compromis ne pourrait être fait. Donc aussi le côté un petit peu qui a terni cette édition, au-delà de la fréquentation du public, c'est que le BIF n'a pas réussi à en fait mobiliser toute l'industrie du film. Ils auraient voulu qu'il soit un peu plus présent, donc avec l'AFM, l'Asian Film Market, dont je donnerai les chiffres juste après. Ça a quand même eu un petit succès puisque des gens sont venus, mais on a senti que tout le monde n'était pas là. Et moi, la façon dont j'ai analysé aussi cette baisse de fréquentation, c'est aussi qu'il doit y avoir dans la file de Poussane, vu que le maire, M. Sceau, a été élu en 2014, il doit y avoir des partisans de ce maire qui n'ont pas voulu aller au BIF, et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup moins de fréquentation. Alors je vais vous donner juste un petit résumé, quelques chiffres, pour que vous ayez une idée de ce que ça donne par rapport à mon analyse plutôt qualitative. Donc en quantitatif, par exemple, en 2015, on avait 227 337 entrées. Là, malheureusement, cette année, on est tombé à 165 149, c'est-à-dire à environ moins 28% de fréquentation. C'est énorme. Donc ça, c'est vraiment le point noir de cette édition. En revanche, d'un point de vue qualité et quantité de films, on est peu ou prou, en fait, à la même proposition. En 2015, il y en avait 302. En 2014, 312, au moment où il y a eu la projection du documentaire qui a posé problème. Et cette année, 299. Donc on avait moins de 1% de films. Et pareil, de beaucoup de pays. Cette année, on avait 69 pays qui étaient représentés. Et toujours, et là c'est une constante dans toutes les éditions, je suis remontée jusqu'à 2010, il y a toujours à peu près un tiers d'avant-première mondiale, donc ce qui vraiment dénote l'importance de ce festival, ils arrivent à avoir des films de prestige en primeur, et en avant-première internationale 10%, et c'est à peu près cette tendance. Pareil en termes de circuit, les salles ne les ont pas lâchées, et c'est ça aussi qui est un point positif de cette édition, c'est qu'en général ils tournent autour de 7-6 cinémas partenaires, que ce soit Megabox, que ce soit le Lotte, que ce soit le CGV et d'autres salles. Donc cette année il y avait 5 cinémas participants qui proposaient 34 écrans, ce qui est vraiment bien parce qu'en fait les années précédentes c'était 35-33, donc ça reste assez constant. C'est juste que moi je le voyais quand j'étais en salle, c'était un peu vide, et quel que soit en fait les horaires, le fonctionnement du BIF, c'est on a droit en fait à 4 films maximum, donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut se débrouiller à faire son planning comme ça. Mais ça permet à tout le monde d'avoir au moins une chance de voir un programme de films.
4 films maximum par festivalier
Par festivalier par jour, d'accord. Tout à fait. Ouais. Parce que déjà, Poussane, c'est très grand. Donc il faut le temps de circuler, que ce soit en métro, à pied, en taxi ou en navette. Donc il y a toujours une projection à 10h, une autre vers 11h30 midi, une autre vers 14-15h et une autre vers 18h. Puis des fois il y a des séances à 20h ou 22h. Il y a les fameuses séances de minuit où il y a des films chocs de genre ou des films érotiques. Mais ça permet déjà aussi
les fameux.
Voilà, les fameux, tout à fait. De ne pas être trop fatigué non plus, parce qu'après, il faut faire les soirées, hein, sinon on ne tient pas. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu les chiffres de l'Asian Film Market, là où on disait qu'il y avait l'industrie du cinéma qui ne s'était pas trop mobilisée cette année, l'année dernière, il y avait eu 1571 participants versus cette année 1381. Donc ça fait quand même pas mal de participants en moins. Au niveau des sociétés représentées à l'AFM, il y en avait 839 l'année dernière, cette année 742, donc à peu près moins 12%. Donc on l'a senti malheureusement. En revanche, en ce qui concerne la couverture médiatique, c'est toujours la même, il y a toujours le même nombre d'accrédités presse, donc c'est toujours très très bien couvert. Par rapport à ce qui s'est passé et que moi j'ai vu durant le BIF, et je vais clore là-dessus, on a eu une édition qui a couronné en fait pour le prix qui s'appelle les New Currents Awards, donc ça prime toujours 2 films. Ça c'est aussi la particularité de ce festival, c'est qu'on ne va pas en fait décerner un prix à un film. On donne la chance à 2 films et c'est une dotation de 30 000 $. Il peut aussi y avoir une mention spéciale. Donc cette année, c'est la Chine qui a été mise à l'honneur avec The Donor de Zhang Pilou et Knife in the Clearwater de Wang Zuebo. Et celui qui a eu la mention spéciale cette année, c'est en fait un Afghan, Navin Mahmoudi, pour Parting. L'originalité de cette édition, et que moi j'ai suivi particulièrement, c'est une nouvelle section qui s'appelle Vision Awards. Et donc ça permet en fait de suivre des réalisateurs qui ont au moins 2 à 3 films dans leur filmographie. Et là, ce qui a été assez exceptionnel, c'est que parmi en fait les réalisateurs qui ont proposé un film dans cette section, il y avait déjà une primée du New Currents, qui est Madame Anne Sopion, qui avait été récompensée pour Pas ce cas, qui est passée l'année dernière au Séoul Hypnotique et au Festival du film international de femmes de Créteil. Et cette année, eh bien, coup de bol, elle a remporté le Vision Awards. Donc elle était assez surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à la voir. Et donc c'est une dotation aussi pour deux films. Donc on remet en fait 5000 euros et c'est sponsorisé par le circuit Megabox. Donc elle l'a obtenu avec son film Lyon's Quartet, qui est en fait une sorte de mode opératoire sur le théâtre, face à Autumn Autumn de Jong Woo-jin. Donc moi j'étais venue au BIF pour voir essentiellement des films coréens, et avec ce système de 4 films, et vu que je suis arrivée en seconde semaine, j'en ai pas vu autant que ça. J'ai vu donc Autumn Autumn qui a été primé, Yon's Quartet qui a été aussi primé, j'ai vu Jamshil de Lee Won-min, j'ai vu The Priest, que je voulais vraiment voir sur le grand écran parce que j'avais beaucoup aimé le court-métrage qu'on avait justement découvert au FFCP, The 12 Assistant Deacons de John Jae-yoon. Là j'en reviens à un bémol, vous allez le découvrir au PIF le mois prochain. En fait il est excellent en court-métrage, en long-métrage ça fonctionne un peu moins bien. J'ai vu The Noises de Min Jae-hoon, Baby Beside Me de Song Taekyung, Merry Christmas Mr. Mo de Lim Dae-yong que j'ai vraiment beaucoup aimé, In Between Seasons de Lee Dong-hun que j'ai pu interviewer, Absent Without Leave, alors là qui n'est pas du tout un film coréen, qui est un documentaire coproduit entre la Malaisie et Taïwan, et un petit pinku japonais, parce que les autres films que je voulais voir, et ben, ils étaient tous complets, alors j'ai vu un film japonais pendant mon séjour. Et pour clore, je dirais qu'en fait, j'ai été assez surprise, moi, de ce que proposait le BIF dans les deux sélections que j'ai suivies, donc New Currents et Vision, où vraiment la part était donnée au cinéma indépendant, donc vraiment très dynamique. J'ai vu vraiment des réalisateurs qui avaient vraiment envie de raconter des choses. Maintenant, après, c'est d'un point de vue formel où j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans beaucoup de films. C'était un peu trop hermétique à mon goût. Donc, après, chacun ses goûts, mais je sais qu'il n'y en a que 2-3 qui m'ont plu dans tous ceux que j'ai vus. Mais le BIF montrait, quand bien même ses difficultés et ses aléas, que le cinéma coréen est dynamique. Et l'a mis vraiment à l'honneur cette année pendant sa 21e édition.
Donc, et juste après le festival de Busan, on a eu une autre nouvelle qui est assez marquante pour le cinéma coréen, puisqu'on a appris que le bureau de la présidente de Corée avait une liste noire dans laquelle figuraient des personnalités du monde culturel et particulièrement du cinéma.
Tout à fait, c'est tombé en fait le 18 octobre, donc vraiment. Dans la foulée en fait du BIF qui s'était terminé le 16. Alors qu'est-ce que c'est que cette blacklist, parce qu'on en parle depuis un petit moment. En fait c'est une liste qui a été mise en place sous le mandat de Park Geun-hye, donc c'est très très récent. Depuis 3 ans en fait, ça permet de refuser à des artistes de recevoir tout soutien financier et logistique du gouvernement. Et le document qu'on a découvert, qui fait plus de 100 pages, recense en fait plus de 9473 personnes. Donc les derniers concernés qui sont tombés dans la presse, il y a Kim Ji-won, qui a justement son film Edge of Shadows qui est passé au FFCP, Yoo Song-won, dont on a vu Vétéran l'année dernière, il y a le producteur Kang Ye-joon, il y a l'acteur ô combien aimé Song Kang-ho, il y a aussi l'actrice Kim Ye-soo qui était dans Coin Locker Girl qui a été présentée à Cannes l'année dernière, il y a aussi Park Hye-in qui est dans le film The Host, ou Kim Tae-woo qui était dans le film Like You Know It All. Le document est en fait divisé en 4 parties concernant les activités dites politiques des artistes. Dans la première partie, il y a les 594 opposants à l'ordonnance du renforcement du gouvernement suite à la tragédie du naufrage du Séoul qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, au cours de laquelle malheureusement 304 personnes des 476 qui étaient à bord ont péri. La deuxième partie recense 754 personnes ayant signé la déclaration exigeant du gouvernement de Park Geun-hye de prendre ses responsabilités suite à cette tragédie. Vous pouvez retrouver le documentaire The True Shall Not See Grief Sewol sur YouTube, totalement légalement. C'est sous la production du journaliste Lee Sang-ho qui s'appelle Global News. La troisième partie recense 6517 personnes ayant soutenu Moon Jae-in, qui est le chef du Minju Party of Korea, qui est l'opposant à Madame Park en 2012. Il y a aussi dans ce document, quatrième partie, 1608 personnes ayant soutenu Park Woo-sun lors de la campagne électorale pour la mairie de Séoul en 2014, qu'il a perdu face à Monsieur So, qui est actuellement membre exécutif du BIF.
Alors, j'ai une question un peu naïve, mais comment ça se fait que ce document soit rendu public et que les noms de la blacklist nous soient connus en fait ?
Alors justement, j'y arrive. C'est Monsieur Do Jong-won qui a rendu public cette affaire. C'est un ancien poète qui est devenu en fait législateur. Il est membre du MPK, donc le parti de Monsieur Moon Jae-in qui était face à la présidente en 2012. Il a affirmé que lors des éditions parlementaires qu'il a eues le mois dernier, le gouvernement a été auteur de cette blacklist et qu'il l'a envoyée en fait au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en mai 2015. Et on trouve des traces, selon lui, dans les minutes des réunions de l'Art Council Korea, l'ACK. C'est l'organisation qui est sous la tutelle de l'État, soutenant les artistes coréens. Et le gouvernement et le ministère de la Culture, M. Kim Jong-dok, nient totalement l'existence, évidemment, de cette blacklist. Donc, cette blacklist, elle ne comporte pas que des cinéastes, parce que là, on a mis, en fait, le projecteur sur l'industrie du cinéma. Mais il y a autant des musiciens, des acteurs, des poètes, des écrivains, des artistes visuels. Et des soupçons avaient déjà émergé, en fait, depuis septembre 2015, on commençait à en parler. Et c'était rendu public seulement il y a quelques jours. Moi, j'en avais entendu parler il y a un an et demi à cause de la blacklist du film Host, que je trouvais totalement aberrant parce que c'est pas du tout la décennie de Parguenyé. Mais comme on y remet en question en fait les autorités gouvernementales et à quel point elles se font balader.
Le film de Bong Joon-ho, c'est
oui,
ça ?
Oui, de Bong Joon-ho. Est interdit de festival à l'extérieur. Normalement, on ne peut pas avoir la copie. Bon, j'ai vu que ça tournait de toute façon en festival. Ça avait été programmé à Belfort l'année dernière.
Forum des images aussi.
Tout à fait, oui, sur Bong Joon-ho. Donc, il suffit juste qu'on ait un distributeur local qui ait la copie, on peut. Mais c'était un des premiers films qui avait été blacklisté.
Et du coup, effectivement, quelle est la conséquence concrète d'une blacklist comme ça pour les cinéastes pour
Alors, en fait, ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes Song Kang-ho ou Park Chan-ho qui sont sur cette blacklist dont les noms sont tombés la semaine dernière, ça ne vous fait rien parce que vous n'avez pas besoin d'aide du gouvernement et d'une aide financière ou logistique. En fait, ce qui est beaucoup plus problématique, ce sont en fait pour les réalisateurs ou les producteurs ou les acteurs du cinéma indépendant, par exemple, si on doit prendre ce cas-là, il y a un réalisateur qui était passé au FFCP l'année dernière, John Kunje, qui avait proposé A Midsummer Fantasia, que j'avais personnellement beaucoup aimé, et il a été mis sur cette liste. Alors que, un, il n'a pas du tout soutenu M. Moon. Deux, je ne crois pas qu'il ait signé, quand bien même il soutient la cause des victimes du Ferry Sewol. Je pense juste que toutes les personnes qui ont aussi soutenu le BIF, hein, que ce soit Han Suki, Park Chan-wook, Choi Do-won, etc., bah, comme ils ont posé en photo et puis ils ont signé des pétitions, je pense que c'est la cinquième section qu'on ne connaît pas très bien qui a soutenu le BIF. Donc Park Chan-wook aussi se trouve dans cette liste. Je pense que c'est lié à son soutien au BIF. Mais malheureusement, c'est tout un pan d'industrie qui va être impacté parce qu'ils ont besoin de subventions du COFI, qu'ils ont besoin professionnels et que si on les empêche de travailler, ben, ils ne peuvent plus produire. Donc la seule issue pour ces personnes qui ont été blacklistées quand elles sont du cinéma d'auteur ou du cinéma indépendant, c'est de se tourner d'autant plus vers la coproduction avec des pays où on n'a pas ce genre de problème.
Et est-ce que ça peut impacter la distribution du cinéma coréen mondialement et en France aussi ?
Alors, pas en hors domestique de toute façon, parce qu'il y a des distributeurs qui justement sont très 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 ont à cœur en fait de défendre ce style de cinéma. Vous avez par exemple M-Line qui a vraiment un panier, un catalogue de films indépendants très 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 engagés. Et eux, qu'ils aient des menaces et des pressions, ça change pas grand chose parce que c'est leur quotidien, justement. Ils ont un autre documentaire qu'on avait projeté en même temps que The True Channel 6 Lucio, qui s'appelle Cruel Stuff, et qui justement met en regard la violence que l'État sud-coréen inflige à son peuple. Il est vraiment, le documentaire n'est pas tendre. Et ce distributeur nous a prêté la copie parce que justement, c'est un film que le monde doit voir. Alors, il n'y a pas d'incidence sur vraiment l'international et en dehors de Corée parce que justement, ils cherchent à vraiment les distribuer. C'est plutôt en domestique que ça pose un souci parce que les circuits de distribution sont essentiellement des gros studios et à la base des producteurs. Donc quand vous voulez passer ce genre de film engagé ou des cinémas d'auteur dont vous êtes blacklisté, bah, vous êtes obligé de passer par des petites salles à recettes. Donc vous avez malheureusement une petite audience, c'est ça un peu la conséquence, donc c'est un cercle vicieux, on se voit encore moins, on projette encore moins, et ça c'est effectivement très problématique. Donc on va dire que le bon côté des choses, c'est que vu que cette affaire a éclaté, ça a mis sous le feu des projecteurs ce problème-là et qui sont vraiment concernés et impactés par cette blacklist. Donc dès le 18, il y a eu deux manifestations dans Séoul assez importantes qui ont été assez suivies. Maintenant, la Corée du Sud est vraiment un terreau d'histoire parce qu'elle nourrit avec son actualité. Il y a eu d'autres scandales qui sont venus depuis. Et donc, moi, j'attends de voir ce que vont donner ces prochaines semaines pour voir tout simplement si l'industrie du cinéma va un peu s'émanciper de cette fameuse blacklist ou pas, suite au remous qu'il y a eu avec Madame Parguny.
Quelqu'un va réagir
sur... Oui, il y a juste que le réalisateur de Midsommar Fantasia a été produit par le Japon. Enfin, il était produit par
Naomi Kawase, oui, tout à fait. Heureusement. C'est grâce à cette coproduction qu'il a réussi à faire ce film-là. Mais malheureusement, ça va devenir son modèle obligatoire s'il veut continuer à
filmer. Une coproduction internationale. Mm-hmm. Bon, voilà, je crois que ça clôt notre
Je propose qu'on envoie le podcast à la présidente de Corée. Nous sommes tous être blacklistés.
Mais après, c'est... Comme...
elle va parler, c'est très longtemps.
C'est bien, non, de toute façon. Tout à fait, enfin, on espère, en tout cas. Et du coup, on va enchaîner sur une partie sur l'actualité du cinéma coréen en France, en parlant de quelqu'un, du film de quelqu'un qui était sur cette blacklist, Park Chan-wook, avec Mademoiselle, qui est sorti le 1er novembre, et sur le cinéma de Yong Sang-woo.